Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jeannie Houle, qui est directrice du laboratoire Vitalité. Elle nous présente l'outil « Aller mieux à ma façon ». Pierre Laporte à l'Espresso et à l'Espresso Allongé nous propose son sujet « La maltraitance psychologique ». Jean-François Plouffe d'Action Autonomie est aussi des nôtres. Il nous parle de vieillissement et santé mentale. On commence d'abord en chanson avec la chanson « Respire ». C'est de Mickey 3D avec Big Flo et Oli. Bienvenue à Folie douce.
Donnez-moi un peu d'air. Mais j'ai fermé la fenêtre.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins.
Ok.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose je crois bien.
Ok.
Droit dans le mur, on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous.
Ok.
D'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer.
Ok.
J'enfile un casque VR pour prendre l'air.
Ok.
On fonce dans le fossé, à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent.
Les trop tard quand les taux se resserrent.
Si c'est pas rien de le dire,
alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux.
À la fin, qui restera debout?
On espère que la génération future fera mieux.
Mais celle d'avant
espérait pareil de nous. Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et c'est pas rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Mais j'ai fermé la fenêtre.
Et ça c'est rien de le dire.
Tout va dans la tête.
Tu vas pas mourir de rire.
Je comprendrai peut-être.
Et c'est pas rien de le dire.
Ah, t'avais raison.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et ça c'est rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Mais j'ai fermé la fenêtre.
Il faut que tu respires.
Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
J'accueille maintenant mon invité, Mme Jeannie Houle. Bienvenue à l'émission Folie douce.
Merci beaucoup.
Merci, merci d'être là. Vous êtes directrice du laboratoire Vitalité. On va parler ensemble de, justement du laboratoire Vitalité, mais aussi d'un outil qui s'appelle « Aller mieux à ma façon ». Donc, pour débuter, comment on pourrait situer ce que c'est le laboratoire Vitalité?
Bien, le laboratoire de recherche Vitalité, c'est un laboratoire qui s'intéresse à la santé mentale plus particulièrement, et à la réduction des inégalités sociales de santé. Alors, c'est un laboratoire que j'ai créé peu de temps après mon arrivée à l'UQAM, donc en 2010. Puis, c'est dans le cadre des travaux du laboratoire, on a différents projets de recherche en cours, mais qui concernent soit justement l'autogestion des difficultés de santé mentale, la promotion de la santé mentale, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont plus défavorisées au plan socio-économique.
Il y avait un besoin à ce moment-là, quand vous l'avez créé en 2010, il y avait un besoin dans la collectivité à ce sujet-là, dans le monde aussi universitaire?
Bien, je pense que, dans le fond, le laboratoire est complémentaire à tous les autres laboratoires qui existent, là. Dans le fond, nous, la particularité, c'est qu'on mène toujours les recherches avec les personnes qui sont premières concernées. Donc, avec les personnes qui ont vraiment des savoirs d'expérience par rapport aux phénomènes qu'on étudie. Donc, dans ce cas-ci, par rapport à la santé mentale, on s'assure d'avoir au sein même des équipes de recherche des personnes qui sont en rétablissement de problèmes de santé mentale, qui sont passées par là et qui vont mieux aujourd'hui et qui ont envie de contribuer à des études, mais au-delà d'une simple participation à un questionnaire ou une entrevue une fois, c'est vraiment des partenaires avec qui on pense les projets de recherche, avec qui on mène les projets et avec qui ensuite on diffuse les connaissances qui sont produites de ces projets-là. C'est vraiment la couleur particulière du Labo Vitalité, c'est qu'on implique toujours les personnes premières concernées dans les projets.
Et la plupart du temps, le public ne sait pas toujours justement tous les efforts qui sont faits, là, entre autres dans les universités puis dans les milieux de recherche là, au niveau de l'amélioration de la santé mentale, mais c'est très important pour le mieux-être des gens, là.
Ben absolument. Je pense que comme chercheur, on a un rôle à jouer dans l'amélioration probablement des services, dans le développement de nouveaux services aussi. Puis effectivement, on a l'espèce de préjugé du chercheur dans sa tour d'ivoire, mais je vous assure qu'on est beaucoup de chercheurs qui travaillons en étroite collaboration avec les partenaires du milieu communautaire, du réseau de la santé, puis avec les personnes en rétablissement de difficultés de santé mentale aussi.
Parce que, dans le fond, pour certains, la recherche, les gens pourraient penser que c'est un peu théorique, tu sais, mais dans le fond, ce que vous voulez, c'est d'améliorer les choses pour que ça devienne pratique pour les utilisateurs.
Bien, absolument, mais je pense qu'il y a de la place pour différentes formes de recherche. Il y a effectivement de la recherche fondamentale qui s'intéresse, par exemple, aux causes biologiques ou neurobiologiques des difficultés de santé mentale, mais il y a beaucoup de chercheurs qui font de la recherche qu'on appelle de la recherche appliquée. Qui vise vraiment à trouver des solutions innovantes à des problèmes qui existent, à trouver des nouvelles manières de faire, essayer d'implanter ça dans la vraie vie et voir ce que ça donne auprès des personnes. Donc, je fais partie de ces groupes-là. Moi, je suis psychologue, mais je suis psychologue communautaire. Donc, à la différence de mes collègues psychologues cliniciens qui font de la psychothérapie, qui tentent de traiter les problèmes de santé mentale avec la psychothérapie, les psychologues communautaires, on essaie de travailler d'une part plus en amont du développement des difficultés de santé mentale, puis on travaille beaucoup aussi avec le soutien par les pairs, l'entraide, le développement du pouvoir d'agir aussi, le développement du pouvoir d'agir individuel et collectif. C'est vraiment ce qui fait notre marque de commerce, si vous voulez, les psychologues communautaires.
Vous devez avoir sûrement une bonne collaboration aussi du milieu, parce qu'on sait que le milieu à Montréal est quand même très dynamique. Là. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le domaine communautaire en santé mentale.
Là. Absolument, c'est extraordinaire ce qui se fait dans le milieu communautaire en santé mentale. Beaucoup les organismes, notamment les ressources alternatives en santé mentale, les organismes qui font du par et pour, il y a les organismes comme Revivre, il y a toutes sortes d'organismes qui existent pour venir en aide aux personnes qui traversent des difficultés de santé mentale. Il y a une grande, grande richesse. En effet, à Montréal, on a beaucoup de chance. Par contre, les personnes qui vivent un petit peu plus éloignées en région peuvent avoir un accès plus difficile à ces ressources-là communautaires.
Et on va parler justement d'un outil, puisqu'on parlait du pratico-pratique tout à l'heure. Il y a un outil qui se nomme « Aller mieux à ma façon ». Qu'est-ce que c'est cet outil?
Bien, c'est un outil qu'on a développé, je pense que la première version était en 2016. Donc, c'est un outil qui vise à vraiment aider les personnes à reconnaître ce qu'elles font déjà pour aller mieux. Donc, quelles sont leurs stratégies? On appelle ça des stratégies d'autogestion. Qu'est-ce qu'elles font pour aller mieux dans leur vie quotidienne, pour gérer les symptômes, pour prévenir les rechutes? Et c'est un outil qui a été développé à partir du savoir d'expérience de 50 personnes qui se sont rétablies de difficultés de santé mentale et à qui on a demandé, dans une recherche, de nous partager leurs trucs. Qu'est-ce qui les avait aidés à s'en sortir? Qu'est-ce qui les avait aidés à aller mieux? Et qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, était important pour préserver une bonne santé mentale? Donc, à partir de ça, on a ressorti plus d'une cinquantaine de stratégies qu'on a réparties selon les différentes dimensions du rétablissement. Et donc, l'outil Aller mieux à ma façon permet à la personne de repérer parmi cet éventail de stratégies-là ce qu'elle fait déjà pour aller mieux. Donc, déjà, c'est valorisant en soi de réaliser qu'on en fait déjà de l'autogestion et qu'on est bien parti. Mais par la suite, la personne peut se laisser inspirer par d'autres stratégies que les gens ont mentionnées et qu'ils trouvaient utiles. Donc, au départ, Aller mieux à ma façon, c'est un outil qui était vraiment papier. C'est comme une brochure, si vous voulez.
Ouais.
On avait une version aussi qui était PDF dynamique. Donc, les gens pouvaient se télécharger l'outil puis le compléter à la maison. Mais on en a fait plus récemment une version en ligne. Donc, c'est possible en allant sur le site allermieuxmafaçon.ca de se créer un compte et de pouvoir compléter l'outil en ligne. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein? L'autogestion, c'est pas compliqué, c'est tous les petits gestes qu'on peut poser au quotidien pour prendre soin de sa santé mentale, pour aller mieux. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas de recette unique non plus, donc chaque personne doit apprendre un peu à se connaître là-dedans. Qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre contexte, selon nos préférences. Donc c'est vraiment un travail un peu de connaissance de soi qui est nécessaire de faire. Puis je vous dirais que c'est pas juste pour les personnes qui ont des difficultés de santé mentale, tout et chacun là, dans la population. De toute façon, de manière inconsciente, on le fait. On en pose des gestes au quotidien pour prendre soin de nous. L'outil Aller mieux à ma façon permet aux personnes qui traversent peut-être un petit peu une passe plus difficile de faire un peu un portrait de ce qu'ils font déjà, puis peut-être se laisser inspirer par ce que les autres ont donné comme stratégie, puis essayer des choses nouvelles.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de stratégies, des fois, les gens, pour avoir déjà des trucs peut-être pour mieux vivre, finalement, pour aller mieux, là?
Oui, ben c'est tout simple. Hein. Comme je vous disais, ils se répartissent dans différentes dimensions du rétablissement. Il y a la dimension physique, bien sûr, qui consiste à prendre soin de ses habitudes de vie, donc faire de l'exercice. On ne dira jamais assez, ouais. Ça, mais juste de bouger, d'aller prendre une marche dehors, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il y a la littérature scientifique est claire là-dessus. Donc, bouger, bien manger, bien dormir, ça fait partie des stratégies d'autogestion, c'est plus de la dimension physique. La dimension sociale, ben c'est de communiquer avec des amis, de prendre soin d'un proche, aussi de s'occuper d'un animal. Tout ce qui concerne les relations, c'est quelque chose qui est très important pour la santé mentale des êtres humains. Il y a aussi une dimension plus existentielle. Donc, c'est quoi le sens que je donne à ma vie? Donc, c'est l'idée de mettre dans son quotidien, dans sa semaine, des activités qui nous raccrochent à un sens à notre vie, qui font en sorte qu'on s'épanouit comme être humain. Donc, c'est des exemples très simples. Là. Mais l'autogestion, ça peut être aussi simple que aller voir un film, prendre un bon bain chaud, c'est ça, aller prendre une marche avec son animal de compagnie, ça peut être différentes choses, mais ou même ça peut être cuisiner, mais chaque personne a des stratégies différentes, parce que pour moi, cuisiner, c'est pas quelque chose qui me fait du bien à ma santé mentale, mais une de mes amies, oui.
C'est ça.
Quand un coup de cafard, elle se prépare une bonne recette, ça lui fait du bien. Donc, c'est vraiment important d'y aller sur mesure, si vous voulez, puis surtout de faire très attention à ne pas embarquer dans une pression de performance. On n'est pas dans la pression de performance de faire des tonnes d'autogestion à tout prix. Il faut y aller vraiment à son rythme puis trouver quelques stratégies qui nous font du bien à nous et puis ça suffit. Voilà.
Dans le fond, c'est un peu encourageant parce que les gens, des fois, sont un peu perdus. T'sais, ils ne savent plus trop par où commencer, par quoi changer dans leur vie pour aller mieux. Donc, finalement, vous vous faites comme un endroit unique où les gens peuvent aller s'inspirer, comme vous le disiez, puis trouver ce qui leur plaît, là.
Absolument, c'est ça. Puis comme je vous dis, c'est pas sorcier, c'est pas obligé d'être très, très compliqué. C'est à la portée un peu de tous et chacun. En même temps, ce qui est important de dire, c'est que l'autogestion, ça signifie pas s'arranger tout seul. L'autogestion, ça peut être aussi de se dire, mon Dieu, il y a des ressources qui existent que je pourrais contacter pour me donner un petit coup de main quand c'est plus difficile. Tu sais, prendre une médication pour un problème de santé mentale, ça fait partie de l'autogestion. Aller voir un psychologue aussi. Donc, c'est vraiment de vraiment connaître ce qui nous fait du bien, ce qui nous est accessible, puis de l'utiliser au bon moment.
Oui. Madame Hull, donc vous êtes directrice du laboratoire Vitalité depuis 2010, ce laboratoire qui s'intéresse justement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la santé mentale, l'aspect aussi communautaire dans votre cas. Qu'est-ce qui vous motive justement à poursuivre, parce que vous semblez très emballé aussi, très dynamique en parlant de santé mentale, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous motive à poursuivre justement dans le domaine?
Ben moi, je pense que la santé mentale, c'est important. C'est une ressource qui nous permet d'atteindre nos objectifs comme être humain, puis de vivre une vie qui soit pleine et épanouissante. Donc, je pense que si j'ai l'opportunité de faire une petite différence dans la vie des personnes à travers les outils qu'on développe, ben ça fait grand plaisir. Mais je vous dirais que le bonheur de tout ça, c'est l'équipe qui travaille avec moi sur ces sujets-là. C'est des personnes auprès desquelles j'apprends beaucoup, notamment les personnes qui sont en rétablissement de difficultés de santé mentale, qu'on appelle des pairs chercheurs, de ces personnes-là me nourrissent énormément comme être humain. Donc, je pense que c'est comme si le processus est cohérent avec la finalité. C'est-à-dire qu'en travaillant sur ce sujet-là, on se fait du bien à nous aussi au plan de notre santé mentale et on contribue à la santé mentale de son prochain. Alors, c'est très stimulant.
Et les personnes, je pense, sont beaucoup plus ouvertes qu'avant. Tu sais, ça a beaucoup évolué, la santé mentale, moins tabou. Ça l'est encore beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui veulent justement contribuer, donner le input, comme on dit, aux chercheurs, entre autres.
Absolument, absolument. Puis je pense que ça nous appartient à nous, comme chercheurs, de leur offrir l'opportunité de contribuer aussi, de les impliquer dans nos projets, de leur offrir des occasions de rencontrer d'autres personnes aussi qui ont traversé des difficultés, qui s'en sont sorties. C'est des modèles d'espoir, hein? Et puis je pense que c'est important de mettre en valeur les savoirs d'expérience. Je trouve que dans nos sociétés, on surévalue, on surestime, on pose un petit peu un regard très hiérarchique sur les différents savoirs en disant que les savoirs scientifiques sont supérieurs aux autres savoirs. Mais pour moi, les savoirs scientifiques, les savoirs professionnels, les savoirs d'expérience, c'est des savoirs qui sont complémentaires. Puis moi, je travaille toujours avec une démarche de croisement des savoirs où justement, autour de la table, je rassemble des gens qui ont ces différentes formes de savoirs-là. C'est ensemble qu'on est capable de produire des connaissances encore plus utiles, je pense, pour la société.
Oui, absolument. Bien, il nous reste quelques secondes encore. On voudrait mentionner justement les gens qui veulent soit utiliser, finalement, avoir accès à l'outil, aller mieux à ma façon, ou sinon en savoir plus sur le laboratoire Vitalité. Comment on pourrait faire?
Bien, je vous invite simplement à taper www.allermieuxamafaçon.ca. Donc, allermieuxamafaçon.ca ou encore www.vitalité.ucam.ca.
Donc, aller mieux, un outil à découvrir. C'est ceux qui ne savent, qui connaissent pas, finalement, aller l'utiliser et ça va juste être bénéfique, je pense, pour la plupart des gens. Même, comme vous le disiez, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de santé mentale. Tous les gens ont des fois des downs, comme on dit, dans leur vie. Donc, comment aller mieux, c'est une bonne piste pour aller mieux, là.
Absolument.
Merci beaucoup, Mme Janie Hull, dont directrice du laboratoire Vitalité, d'avoir été avec nous à l'émission Folie douce. Et bonne continuation.
Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Jour, les cheveux emmêlés dans les draps d'un amour qui peine à s'essouffler, mais le compte à rebours est déjà commencé à l'arrivée du carrefour. Je veux rester éveillée.
des bijoux qui brillent. Et je chante des bijoux qui brillent sous les néons.
Voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Nous y allons maintenant avec l'espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, le sujet, la maltraitance psychologique.
Exactement, la maltraitance psychologique.
J'espère que ça ne sera pas trop triste.
Ben, c'est un sujet difficile,
ouais.
Je dirais, mais c'est un sujet dont on doit parler parce que d'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut entendre aussi, c'est quelque chose qui est assez répandu. Et ceux qui sont coupables de maltraitance psychologique, c'est autant les hommes que les femmes, d'après ce qu'on nous dit.
Ouais.
Et d'après l'article qui s'appelle « Maltraitance psychologique, comment l'identifier et comment agir », on va voir justement qu'est-ce que c'est possible de faire. Mais la personne qui a écrit l'article, c'est Mme Andrea Garcia Cerdan, qui est psychologue. Elle utilise plus le masculin pour décrire celui là, qui commet les maltraitances, mais elle nous dit également que c'est homme et femme, et elle utilise le « il »,
ouais, »,
on va voir plus souvent, et dans la vie de couple.
Donc, ne vous sentez pas visé, messieurs, ça se peut que ce n'est pas que
exactement,
vous qui êtes en cause.
Hein. Exactement, oui. Alors, elle nous dit « cela se produit dans toutes les tranches d'âge et dans n'importe quelle relation. On est déjà bien loin du stéréotype de la maltraitance au sein du couple. Cela peut se produire dans une relation d'amitié, dans une relation professionnelle, dans une relation parent-enfant, même dans une relation avec une personne âgée, etc. Et les personnes qui maltraitent peuvent être aussi bien des femmes que des hommes. Un abus pendant l'enfance peut avoir de graves conséquences sur la vie d'un individu et empêche souvent un développement psychologique sain. La maltraitance psychologique, nous dit Mme Cerdan, peut être définie comme un schéma régulier d'offenses verbales, de critiques constantes, de manipulations, etc., dans lequel il existe toujours une relation d'inégalité entre la victime et son agresseur. L'agresseur se trouve dans une situation de pouvoir et de supériorité. Par exemple, il se rit de vous et vous ridiculise devant les autres. Tu vas voir, il y a beaucoup de points. Lorsque vous vous plaignez, il vous dit, par exemple, c'était une blague, et il vous accuse d'être trop sensible. Il vous dit que vos opinions et vos sentiments sont erronés. Vous ressentez qu'il vous traite comme un enfant. Il vous corrige tout le temps à cause de votre comportement « inapproprié », entre guillemets. Vous ressentez que vous devez demander la permission avant de vous rendre n'importe où ou afin de prendre n'importe quelle décision. Il contrôle aussi vos dépenses. Il vous traite comme si vous étiez inférieur à lui. Il vous fait sentir comme s'il avait toujours raison. Il vous rappelle constamment vos erreurs. Il diminue vos succès, vos aspirations, vos plans et même qui vous êtes. Il vous regarde et vous parle avec désapprobation, de manière condescendante et dépréciative. Je me rappelle en lisant tout ça, des fois on entend des femmes, peut-être qui ont atteint un certain âge et qui ont vécu ça pendant des années.
Il raconte,
des
années. Là, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Autre point, il vous accuse de choses que vous savez être fausses. Il est incapable de rire de lui-même. Il est très sensible lorsque quelqu'un se moque de lui ou fait un commentaire qui pourrait sembler être un manque de respect. Il n'est pas capable d'assumer ses erreurs et de s'excuser. Il n'est jamais coupable, ce sont toujours les autres. C'est toujours la faute des autres et il n'assume jamais ses responsabilités. Il vous culpabilise de ses problèmes ou de ses malheurs. Il viole vos limites et ne respecte pas vos demandes. Il se fâche ou vous retire son affection ou son attention. Il utilise la privation de nécessités basiques ou l'abandon et la négligence comme châtiment. Et cela se produit surtout envers les enfants. Il ne voit pas comment vous vous sentez ou il s'en fout. Il ne montre pas d'empathie, il ne vous demande jamais comment vous vous sentez. Au lieu de vous traiter comme une autre personne, il vous traite comme si vous étiez une extension de lui-même. Il ne protège pas vos limites personnelles. Il partage des informations à votre sujet sans votre permission. Finalement, il ne respecte pas vos demandes et fait ce qu'il pense être mieux pour vous.
A-t-il quand même quelques qualités? quelques qualités, peut-être?
Je pourrais dire que c'est un
Achetez
gars...
Achetez plus, la cour est pleine.
C'est un gars qui est mal à manger. Mal à manger, on pourrait dire. Ouais. Mais on va voir que ça prend aussi un type de victime, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui vont accepter ça. Là, ici, c'est un homme... celui qui commet les
maltraitances. Mais ça pourrait être une femme qui fait tout ça, là, tout ce que tu as décrit. Là,
exactement. Voici maintenant le profil de la victime. Cela doit être clair que dans les cas de maltraitance psychologique, la victime n'est absolument pas coupable d'être maltraitée. Elle ne l'a pas cherché et n'apprécie pas être insultée et dépréciée. Ce qui, par contre, est vrai, c'est que les personnes qui maltraitent les autres le font généralement avec certaines personnes qui remplissent certaines caractéristiques psychologiques. Les maltraitants profitent des personnes dont ils savent qu'ils ne vont pas se confronter à eux ou à elles. C'est pour cela qu'on peut désigner une population plus vulnérable aux maltraitances. Il est important que nous le détections, que cela soit pour nous-mêmes ou pour des personnes qui nous sont proches, afin de les aider à se renforcer de manière à ce qu'elles puissent faire face et se défendre d'une possible maltraitance. Donc, ces personnes-là, Yvan, vont avoir besoin d'aide, c'est clair.
Ouais.
Les caractéristiques de ces personnes sont généralement les suivantes. Ce sont des personnes avec une basse estime d'elles-mêmes. Elles ne se sentent pas capables d'affronter la majorité des situations problématiques. Elles dépendent généralement des autres pour prendre leurs décisions. Elles ne défendent pas leurs droits et ont de la peine à dire non. Mais je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission.
Retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Je reçois maintenant notre collaborateur, Jean-François Plouffe. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas nous parler de vieillissement et santé mentale.
Oui, ça fait plusieurs années déjà qu'à Action Autonomie, on s'intéresse à cette question-là du vieillissement, de l'impact du vieillissement sur la santé mentale. On a fait des projets de recherche avec la Téléuniversité, la TELUC, depuis plus de 5 ans. Et là, on en est à procéder à la diffusion des conclusions de ces deux recherches-là qu'on a faites, en fait. Et ce qu'on tente de faire, c'est de faire en sorte que les personnes elles-mêmes qu'on perçoit comme vieillissantes, c'est-à-dire qui ont plus que 55 ans, vont faire eux-mêmes la présentation des conclusions de la recherche. Et donc, ça sous-entend toute une démarche de formation, justement, des formateurs et formatrices, parce que ce n'est pas des gens qui sont très habitués à parler en public. Donc, c'est un défi intéressant et valorisant pour nos membres aussi. Donc, on trouve ça vraiment très, très positif là, comme approche. Puis, ça intéresse plusieurs de nos membres. Évidemment, nos membres sont souvent des gens qui ont atteint l'âge de la pré-retraite, mettons là à 55 ans. Donc, c'est eux qui ont un peu plus de temps à consacrer à l'action autour des revendications, autour des droits. Donc, ça leur donne une façon d'amener leur implication à un autre niveau, là, et on trouve ça très, très positif.
On s'intéresse de plus en plus au vieillissement et santé mentale, mais c'est sûr que ça, peut-être, je dirais, a été des fois un peu oublié, ou en tout cas, peut-être il y a peut-être plus de jeunes, à certaines époques, qui étaient, entre guillemets, plus jeunes. Là, tu vois, on s'occupait plus des gens, peut-être plus jeunes, mais j'ai l'impression que le vieillissement devient de plus en plus important là, en santé mentale.
Bien, c'est ça. C'est, dans les années 60-70, on s'intéressait beaucoup aux jeunes parce qu'à cause d'un phénomène qui est apparu après la fin de la guerre, qui s'est appelé le baby boom, qui a fait en sorte que le taux de natalité s'est mis à augmenter très, très rapidement. Et donc, cette génération du baby boom, née entre 1945 et 1965, est aujourd'hui cette génération qui vieillit. Et justement, on constate qu'il y a, il y a des préjugés envers, notamment envers cette génération du baby boom, où on pense que ce sont tous des gens riches et prospères là, qui ont gagné leur vie dans l'appareil d'État, puis qui aujourd'hui vivent un peu au crochet de l'État et ont des retraites dorées et tout ça, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a une partie de ces gens-là qui évidemment, ont vu une vie un petit peu plus prospère, mais il y a beaucoup de gens défavorisés, des personnes âgées défavorisées qui appartiennent à cette génération-là aussi. Donc, ça, c'est un des aspects dans la recherche là, qu'on a tenté de démystifier. Et tout ça est relié, évidemment, à la question de l'âgisme. L'âgisme, c'est la discrimination sur la base de l'âge. Les jeunes sont victimes d'âgisme, mais les personnes âgées sont plus âgées, sont victimes d'âgisme aussi. Donc, on considère souvent que les personnes vieillissantes comprennent mal la réalité actuelle, comprennent mal la technologie, par exemple. De là à penser qu'ils peuvent avoir des pertes cognitives qui commencent à délirer, ben c'est là qu'on commence à les traiter un peu plus comme des enfants, puis à les appeler mon petit monsieur et ma petite madame et tout ça. Et donc, il y a toute une espèce de mépris qui s'installe autour des personnes vieillissantes que nous, on a documenté dans cette recherche-là et qu'on tente là, justement de démystifier en la présentant. Et c'est d'autant plus vrai chez les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale et qui sont vieillissantes, parce que c'est un petit peu la même attitude qu'on a envers les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, peu importe leur âge, ils comprennent rien, il faut les aider, prendre des décisions à leur place parce qu'ils sont pas capables de prendre des décisions eux-mêmes. Donc, il y a une espèce, et c'est là qu'on parle de cumul des oppressions. Donc, les préjugés sur la base de la santé mentale ou de l'état mental, on appelle ça le sanisme. Donc, ça s'ajoute à l'âgisme, ça s'ajoute au sexisme dont sont victimes les femmes de tous les âges, mais aussi les femmes plus âgées. Ça s'ajoute aussi au classisme, qui est la discrimination dont les personnes plus défavorisées économiquement font l'objet. Puis évidemment, ça s'ajoute au racisme pour les nouveaux arrivants, pour les gens d'origine immigrante. Donc, toutes ces oppressions-là, elles s'additionnent l'une à l'autre pour faire en sorte d'entraver de plus en plus le fonctionnement des personnes en société, et ça justifie un petit peu leur caractère de plus en plus, le fait de les mettre de côté, le fait de ne pas les écouter, et le fait de leur imposer nos décisions, comme ça se fait beaucoup dans le milieu de la santé mentale, où les soignants imposent beaucoup les traitements aux personnes sans les consulter et sans prendre le temps de connaître leurs véritables besoins.
Et on connaît peut-être pas tant que ça les personnes de 55 ans et plus, parce que quand on remonte, dans le fond, les 55 ans et plus étaient là quand les universités se sont développées, étaient là, c'est probablement des gens plus âgés, plus éduqués et plus au courant des choses que les anciens personnes âgées, peut-être des années 80, c'est pas le même monde.
Fait que ce sont les acteurs de ce qu'on a appelé la révolution tranquille au début des années 60. Donc, c'est des gens qui ont fait justement entrer le Québec dans la modernité. Moi, mon père a aujourd'hui 90 ans, ben c'est le fondateur d'un département dans un cégep montréalais. Il a vu la naissance des cégeps, et les cégeps, ben c'est aujourd'hui encore un élément fondamental de notre système d'éducation. Donc, ça a été créé par des gens qui ont aujourd'hui 75, 80, 90 ans. Puis quand ces gens-là reçoivent des soins, ben on les voit comme des petits vieux qui ont perdu tous leurs moyens. alors que ça reste des gens qui ont été des acteurs très, très, très importants, souvent, de leur société. Donc, c'est ça, l'âgisme. C'est le fait d'oublier la contribution sociale qu'une personne a pu faire en ne la voyant que dans sa vulnérabilité de personne âgée, alors que sa personnalité reste la même. Là. Très souvent, les gens âgés nous disent, moi, dans ma tête, là, j'ai encore 35 ans, j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein d'énergie. C'est sûr que le corps suit moins, mais j'aime pas ça quand on se met à me prendre pour un enfant ou pour un déficient mental parce que je suis plus âgé. Donc, c'est exactement ça, les difficultés qui sont subies par les gens âgés et particulièrement par ceux qui ont des problèmes de santé mentale.
Donc, la recherche va sûrement aider à démystifier puis justement à mieux informer, à peut-être faire le point puis mettre à jour un peu la perception des personnes âgées. Là.
C'est ça, changer les mentalités. C'est un peu ça qu'on cherche à faire. Ouais. Mais aussi faire en sorte que les gens âgés eux-mêmes prennent conscience de cette oppression qu'ils vivent parce qu'il y a beaucoup aussi d'auto-stigmatisation. Les gens âgés sont portés à dire parfois, ben moi je suis vieux maintenant, je suis plus capable, j'ai besoin qu'on m'aide et tout ça. Non, les gens ont encore très souvent toute leur capacité intellectuelle, puis c'est parce qu'ils sont habitués à ce qu'on ne les écoute plus, qu'ils viennent à intégrer ça, puis à se stigmatiser eux-mêmes. Et nous, on essaie justement de lutter contre ça. Mmh. Et en plus, comme groupe, évidemment, de défense de droits en santé mentale, ben nous, on constate que les gens plus âgés font aussi l'objet de plus de violations de leurs droits ou de limitations de leurs droits plus souvent et plus de façon plus intense que les autres. Par exemple, pour ce qu'on appelle les autorisations judiciaires d'hébergement, c'est-à-dire de se faire forcer par un tribunal à aller vivre dans un endroit qu'on n'a pas choisi, ben c'est 90% de ces autorisations-là qui sont imposées à des personnes de plus de 50 ans. Et de ce nombre-là, de ce 90%, il y en a les trois quarts qui sont des femmes. Donc, une femme qui vieillit, elle est prise en charge, elle est sans son consentement et sans être consultée, elle est beaucoup plus portée à subir ce genre de vexation-là que les hommes.
Pourquoi ils font ça, justement, l'autorisation judiciaire, en fait, d'hébergement? Pourquoi ça?
Ben, c'est des gens qui aimeraient vouloir rester dans leur maison ou dans leur logement et qui vivent peut-être une forme ou une autre de perte d'autonomie, qui auraient besoin probablement de services à domicile ou des choses comme ça, mais on leur dit non, on ne vous donnera pas des services à domicile, on ne souhaite plus, votre famille, vos soignants, tout ça, ne veulent plus que vous viviez dans ce logement-là, et donc on va, puisque vous n'y consentez pas à le quitter de votre propre volonté, ben on va plaider devant le tribunal que vous n'avez plus la capacité à consentir et donc on va pouvoir décider à votre place parce que vous ne pouvez plus décider et on va vous amener dans une ressource d'hébergement, dans un CHSLD ou dans d'autres types de ressources d'hébergement pour les personnes âgées. Mais ça, c'est très difficile à vivre à n'importe quel âge parce qu'il y a des gens de tous âges qui se font imposer ce traitement-là, mais c'est encore plus difficile quand on est plus vieux, qu'on a besoin de nos repères, qu'on a souvent vécu pendant des décennies dans le même environnement, puis tout d'un coup, sans qu'on nous demande notre avis, on se fait déraciner. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour les personnes.
Donc. Absolument. Il nous reste à peu près 3 minutes, Jean-François.
Oui. Ben, je voulais aussi parler des séances d'électrochoc. Nous, on est très critiques face à cette forme de traitement-là. Ben, il y a 70% des électrochocs qui sont administrés à des personnes de plus de 50 ans. Et dans ce 70%-là, encore une fois, même phénomène que pour l'hébergement forcé, il y en a les deux tiers qui sont des femmes. Donc, on voit bien le cumul des oppressions sur le sexisme et l'âgisme, notamment, qui sont très, très présents dans notre société. Même chose pour les mesures de contention. On attache beaucoup les personnes âgées dans les hôpitaux et dans les CHSLD. On pense que c'est pour leur bien, pour les empêcher de faire des chutes. Mais il y a une étude française récemment qui a démontré que, au contraire, attacher une personne, ça ne doit pas être un procédé pour prévenir des chutes parce que, au contraire, l'immobilisation prolongée d'une personne, ça produit un ankylosement, un déconditionnement physique et psychologique qui fait que la probabilité de chute augmente dès que la personne est un petit peu laissée à elle-même. Donc, les gens deviennent dépendants de l'immobilisation liens physiques là, de sangles qui les maintiennent à leur fauteuil roulant ou à leur lit, alors que c'est pas absolument nécessaire et que c'est là surtout parce qu'on n'a pas le temps nécessaire de s'occuper d'eux et d'être présent à eux dans leur déplacement. Donc, c'est toutes ces considérations-là sur lesquelles on veut sensibiliser finalement la société et cette sensibilisation-là va se faire par des personnes vieillissantes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Donc, on pense que le message va être particulièrement percutant.
Il reste à peu près une minute. Juste, je me disais, probablement qu'avec le temps, on va voir que les nouveaux préposés aux bénéficiaires des CHSLD, est-ce que ça va aider? Effectivement, on dit toujours qu'il manque de personnel, on verra bien. Mais en moins d'une minute, tu peux peut-être...
Ben, on espère, mais on sait que la culture dominante, notamment en santé mentale, la culture qui avait cours dans les asiles d'aliénés du début du 20e siècle, elle est encore bien vivante. Donc, on pense qu'il va falloir plus que renouveler les effectifs pour que les choses changent. Il va vraiment falloir faire de la sensibilisation puis de la formation de ces gens-là, au-delà des techniques de soins, mais aussi sur les droits et les aspirations des personnes qui soignent, parce qu'elles en ont encore, même si elles ne sont plus toutes jeunes.
Et peut-être avoir justement des milieux de vie mieux pensés et tout ça. Là, c'est tout ça aussi. C'est
pas le gouvernement parle de maison des aînés. Ouais. On va voir à quoi ça va ressembler. Et est-ce qu'on aura les ressources pour les faire à grande échelle? Ça, c'est à voir.
C'est à voir et sur le long terme. Mais en terminant, Jean-François, les coordonnées d'Action Autonomie, pour si vous avez besoin d'aide, vous êtes toujours disponible.
Tout à fait. Alors, on est au téléphone 514-525-5060 et on peut visiter aussi notre site Internet au www.actionautonomie.qc.ca.
Bien, merci beaucoup de ta présence. On va surveiller effectivement les résultats éventuellement de cette recherche là, sur le vieillissement et santé mentale. Ça va être intéressant pour mieux nous informer de la situation actuelle. Merci et à une prochaine.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut.
S'expliquer sans faire de mal, sans que tu t'éloignes, sans me faire mal, sans que tu t'éloignes.
Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce, qui traite de santé mentale depuis 1991.
C'est maintenant le moment du bloc espresso allongé, et tel que promis par toi, Pierre, on va poursuivre avec la maltraitance psychologique, le sujet que tu nous amènes cette semaine.
Oui, un sujet pas trop joyeux, mais un sujet dont on doit parler. J'essaie d'alterner entre les sujets lourds et les sujets beaucoup plus légers pour jamais être trop lourd, trop triste.
À quelque part, c'est la santé mentale, puis il y a des problématiques. Fait que je veux dire, c'est juste notre façon de l'amener, mais c'est pas si mal quand même. C'est plus, ça nous aide en tout cas à le reconnaître, puis peut-être justement à agir et à faire quelque chose pour changer peut-être la situation. Là.
Oui. Donc, la maltraitance psychologique, d'après un article de Mme Andrea Garcia Cerdan, qui est psychologue, elle nous donnait un portrait des personnes qui se laissait, entre guillemets, maltraiter, parce qu'il y a, il y a comme une espèce de profil des personnes qui se laissent maltraiter. Mais il y a aussi un profil du maltraitant. Et elle nous dit que les maltraitants psychologiques ne se rendent souvent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils le voient comme une manière normale d'avoir une relation avec les autres. Ils n'ont pas appris de manière saine d'entrer en confrontation, mais ils ont plutôt tendance à réagir de manière agressive. Et c'est la façon avec laquelle ils ont appris à compenser leurs propres insécurités et leurs propres peurs. En abusant des autres, ils sentent qu'ils ont le contrôle, quelque chose qu'ils ne ressentent certainement pas dans les autres environnements de leur vie. Donc, finalement, c'est des personnes qui ont des carences, finalement.
On peut dire que la plupart des personnes qui ont des comportements un peu comme ça, là, souvent c'est de leur faute, puis c'est pas toujours, tu sais, on sent les excuser à quelque part. Des fois, c'est plus fort qu'elle, puis elle s'en rend pas tout à fait compte, des fois.
Ouais. C'est peut-être même des personnes abusées dans l'enfance.
Aussi, oui.
Ça peut être ça. Ouais. Alors, les maltraitants se sentent peu sûrs, et c'est pour cela qu'ils ont besoin que la victime de leur maltraitance dépende complètement d'eux. Et n'importe quelle action de rébellion est vue parue comme une menace à leur situation privilégiée. Ils sont contrôleurs, possessifs et jaloux. Ils ont une faible tolérance à la frustration. Ils rendent coupables les autres de leurs problèmes. Ils ne se rendent généralement pas compte des dégâts qu'ils provoquent. Et dans les cas où ils s'en rendent compte, cela leur est égal. Ils manquent d'empathie. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils peuvent arriver à être enchanteurs et aimables lorsqu'ils le souhaitent. Ils ont souvent un trouble de la personnalité comme un trouble limite de la personnalité, un trouble narcissique ou un trouble antisocial de la personnalité. Il s'agit là de caractéristiques générales que peuvent avoir ces personnes. Mais il faut tenir compte du fait que chaque personne est unique et qu'il existe autant de profils qu'il y a de personnes. Maintenant, que faire si vous pensez que vous maltraitez quelqu'un psychologiquement? Là, ici, remarque que les personnes qui maltraitent n'auront pas tendance à se reconnaître dans leurs défauts ou d'aller consulter.
Oui, c'est plutôt les gens qui le subissent.
Exactement.
Ouais, mais on ne sait jamais.
Oui, quand même. On nous dit qu'il est difficile de changer une manière d'agir si celle-ci a été maintenue pendant plusieurs années et que c'est la seule manière que nous connaissons d'avoir une relation avec les autres. Il est important de savoir que l'on ne peut pas changer du jour au lendemain et qu'il s'agit d'un processus long. Le mieux est de chercher de l'aide psychologique le plus vite possible, mais entre-temps, voici ce que vous pouvez faire. Une des choses les plus importantes est de reconnaître ce que vous avez fait et de vous rendre compte des dégâts provoqués. Cessez de trouver des excuses et de mettre la faute sur les autres. Essayez de réparer les dégâts qui ont été causés. Acceptez la responsabilité de ce que vous avez fait. Votre vie a beau avoir été dure, l'abus reste un choix. Éloignez-vous de la personne que vous êtes en train de maltraiter, au moins jusqu'à ce qu'un psychologue vous aide à avoir une relation plus saine. Maintenant, que faire si vous pensez que quelqu'un vous maltraite? Prenez conscience que rien ne va changer, même si vous vous en plaignez, à moins de vous rendre chez un professionnel. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Reprenez contact avec vos amis et votre famille si la personne qui vous maltraite vous a éloigné d'eux. Cessez de le justifier, de lui trouver des excuses et de le défendre. Il est responsable de son comportement. Éloignez-vous de la personne qui vous maltraite. Cassez le lien qui vous unit. C'est un pas difficile à franchir, mais il est essentiel. Économisez de l'argent et cherchez un nouvel endroit pour vivre. Et c'est écrit en grosses lettres. Cherchez de l'aide psychologique afin de vous recomposer et de récupérer votre propre estime et le contrôle de votre vie. Et finalement, ne vous culpabilisez pas sous n'importe quel prétexte. Vous n'êtes pas responsable. Si on vous maltraite, ce n'est pas de votre faute. S'il vous traite ainsi, c'est parce qu'il ne peut pas se traiter ainsi lui-même, car en fait, c'est avec lui-même qu'il est en colère. Et finalement, comment prévenir la maltraitance psychologique? L'abus émotionnel ou la maltraitance psychologique est une forme de lavage de cerveau qui peu à peu va détruire le sentiment de valeur personnelle de la personne qui en souffre, ainsi que la confiance en soi et la confiance envers les autres. Cela laisse des cicatrices émotionnelles permanentes et une grande souffrance émotionnelle. C'est pour cela qu'il est important de la prévenir et de la combattre. Pour cela, il nous faut cultiver notre estime personnelle et celle de nos enfants.
Ça doit être quand même difficile de sortir de ça. C'est des mauvaises habitudes comme ça pour la personne qui maltraite. Là,
c'est un cercle vicieux. Le seul vrai conseil, finalement, à part celui de consulter, c'est de s'en aller.
Ouais, pour les gens qui subissent ça, c'est ça, parce que c'est difficile. Il faut d'abord s'en sortir. Merci beaucoup, Pierre. Donc, la maltraitance psychologique à Folie douce.
Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer, y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de verre du feu d'un yeux. Si un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il y a pas grand chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de verre du feu des yeux. Si un party des îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Le livreur de lait passe encore le matin. On vit de pêche à glace, de bateau, de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage aux îles. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de verre du feu des yeux. Si un party des îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Pis y'a les filles des îles, une couette de bière autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe de verre du feu des yeux. Si un party
c'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, Pierre Laporte, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine. La première, Respire.
Oui, de Mickey 3D avec Big Flo et Oli.
On a entendu Sous les néons.
De Fanny Bloom.
Dans la deuxième demi, Des cœurs par la terre.
De Claude Bégin.
Et à l'instant, Fille des îles.
De Laurence Saint-Martin.
Merci beaucoup pour le choix musical et ta mise en onde.
Merci, mon cher.
Merci également pour tes espressos où tu nous as parlé de maltraitance psychologique. Notre invitée en début d'émission, Jenny Hull, directrice du laboratoire Vitalité, nous a présenté l'outil « Aller mieux à ma façon ». Notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé de vieillissement et santé mentale. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie Douce. Au revoir.